Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Fred Blanc, fondateur des Sunday Jazz Loft, rencontre Francesco Bearzati autour de son nouvel album Zorro, concocté avec le Tinissima Quartet.
Bonjour Francesco.
Bonjour Fred.
Bienvenue sur Art District Radio. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve là, puis ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu surtout.
Ouais.
C'est quoi, ça fait un an que tu n'es pas venu sur Paris, je crois?
Presque un an, ouais.
Et là, c'est la sortie d'un nouveau disque?
Oui, la sortie d'un nouveau disque, en fait, c'était déjà, je pense, en France, c'était novembre.
Que tu l'as sorti?
Ouais. Mais bien sûr, avec la situation, la pandémie, tout est changé, quoi. Tu vois, on ne fait pas des concerts, alors les disques restent un peu plus.
Au moins, l'avantage, c'est qu'à la fin, je ne vais pas oublier de citer tous les concerts que tu ne vas pas faire.
T'as raison, ouais.
C'est pareil pour les Sunday Jazz Loft, ouais, qu'on organise ensemble.
Ouais.
Ça fait quoi? Ça fait un an? Comme tu me le disais tout à l'heure,
ouais,
hier, ça fait exactement un an qu'on a fait le dernier Sunday Jazz Loft.
Ouais.
25 Sunday Jazz Loft depuis 2014. Bon, on va peut-être revenir un peu sur ton projet.
Ouais.
Donc, il s'appelle...
Il s'appelle Zorro.
Pourquoi Zorro?
Parce que Zorro, c'est le personnage principal qui m'a inspiré d'écrire la musique pour ce disque. Le disque normalement que j'ai fait avec les Tinissima Quartet, ils sont des concept albums, concept disques. Ça veut dire qu'il y a un argument qui vient traiter et avec des morceaux qui sont comme des chapitres pour une histoire.
Mais c'est ce que j'ai un petit peu appelé, on en parlait il y a quelques temps, de bio-musical.
J'ai
l'impression que tu racontes à chaque fois,
ouais,
la vie de quelqu'un.
En fait, c'est ça.
Alors jusqu'à présent, c'était toujours des vraies personnes.
Ouais, mais pas cette fois.
Coltrane,
ouais.
Malcolm X.
Exactement. Ouais. Cette fois, c'est un personnage du fantasy. C'est un personnage
fantastique.
Fantastique, en fait. Mais très, très connu. Qu'il a les mêmes principes, en fait, des autres. Ça veut dire de se battre pour les personnes qui n'ont pas vraiment en voix, qui n'ont pas le droit ou le pouvoir de dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont toujours dans une position un peu humiliée.
Donc tu es là pour les défendre?
Moi, je suis là pour parler de ça, parce que je n'ai pas les capacités de Malcolm X, de Tina Modotti, de Zorro, bien sûr.
Non, mais quand tu as le sac en main, tu as le pouvoir.
J'ai le pouvoir de raconter. De raconter l'histoire de ce personnage qui m'a toujours fasciné beaucoup. Et voilà, cette fois, c'est le tour des Zorro.
Et ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic pour que tu aies envie de faire Zorro?
Oui. Alors, le déclic, c'était un livre d'Isabelle Allende qui est sorti en 2005, mais moi, je l'ai acheté quelques années après, je pense. J'étais à Naples, à l'aéroport. Et tu sais que notre vie des musiciens qui tournent beaucoup avec de l'avion et le train, c'est d'attendre à la gare, d'attendre dans l'aéroport. Et alors on cherche toujours des livres pour passer le temps. Et là, je me souviens, j'étais à Naples, j'attendais peut-être 2-3 heures comme d'habitude. Et à Naples, dans l'aéroport, il y a une librairie très grand, en fait, où j'ai trouvé ce livre, il m'a touché, seulement la pochette, quoi, la Z de Zorro. Et je l'ai acheté, et là, je suis tombé amoureux de ce personnage. Mais en fait, je n'ai pas arrivé à écrire la musique, là, en ce moment-là. En fait, après, j'ai fait le disque de... C'était quoi? C'était 2013, 2014. J'ai fait le disque sur Woody Guthrie. Mais Zorro, il est arrivé avant Woody Guthrie. Mais je n'avais pas d'inspiration à ce moment-là. Et après ça, en fait, j'ai repris le bouquin pour dire, mais comment c'est possible? Il m'a beaucoup pris Zorro l'autre fois. J'ai recommencé à regarder tous les films, comme... toi-même, tu as fait, tu peux raconter.
Bah, tu m'as appelé et tu m'as dit, Fred, il faut que tu lises ce livre.
Ouais.
Alors, je l'ai lu. Mais quand tu lis ce livre, ce n'est pas l'histoire de Zorro.
C'est l'histoire de Zorro, dans le livre d'Isabelle Allende. C'est l'histoire de Zorro, mais avec des permissions, des fantaisies.
Elle réinvente un peu cette histoire, ouais. Le bateau, le voyage.
Mais surtout, l'origine est indienne. De Zorro.
Oui, tout à fait.
Ça m'a
touché.
Exactement. Sa mère, sa grand-mère. Sa mère, je ne me souviens plus maintenant.
Je crois que c'est sa mère.
Sa mère, ouais.
On ne le dira pas si on s'est trompé.
Ouais.
Lisez-le.
Exact. Il est super, d'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'il est très bien.
Et là, je me suis remis pour faire ce travail. Et tout d'un coup, j'ai vu l'inspiration pour...
Alors, ça veut dire quoi, l'inspiration? Parce que moi qui suis créatif, mais pas du tout dans la musique... Moi, j'ai l'impression que l'inspiration, pour moi, elle arrive quand je travaille. Elle ne me tombe pas du ciel, elle ne me tombe pas dessus comme ça.
Je pense qu'on n'est pas tous pareils, en fait. J'arrive même à faire de la musique quand je ne suis pas trop inspiré, mais je ne suis jamais content. Là, tu vois, là, il y a un truc qui m'arrive, qui me sort, j'arrive à sortir et à écrire de la musique qui me plaît. Et alors là, je sens que c'est le moment d'aller au fond. Avant, je n'avais pas ça et j'ai laissé tomber les projets Zorro.
Donc, ça veut dire que tu étais plein de Zorro, ouais. Et rien ne sortait.
Rien ne sortait. Rien qui me plaît beaucoup. En fait.
D'accord. Donc, tu as beaucoup écrit, tu as beaucoup cherché.
J'ai beaucoup. Je suis resté quelques mois dans l'histoire, au piano.
Donc, toi, tu travailles au piano?
Oui, bien sûr, j'écris avec le piano.
T'écris
pas sur
le piano.
Mais normalement, oui, je travaille la composition.
Donc, tu sors pas ton sax ou ta clarinette?
Quelquefois, oui, ça dépend, oui, bien sûr. Mais normalement, je fais les gros travaux, je les fais au piano. Ouais, je me souviens, j'étais à Paris.
Tu te mets pas à écrire sur une partition?
Oui, j'ai écrit sur papier, bien sûr.
Mais tu l'écris en transcription de ce que tu as fait au piano?
Oui, oui, oui.
Tu le fais pas directement sur la...
Non, directement sur papier, mais l'inspiration et l'idée musicale, je travaille avec le piano, normalement, ok? Quelquefois, j'enregistre des idées et je les mets sur l'iPhone, les suggestions qui m'arrivent.
D'accord.
Parce qu'en fait, c'est un travail beaucoup de suggestions, parce que cette fois... J'imaginais d'être au Mexique, quoi, dans la Californie mexicaine, quoi. Et alors j'imaginais un son plutôt Morricone et Tarantino, tu vois, un peu comme les B-movies italiens des années 70, tu vois. J'essayais d'imaginer une sonorité plutôt, comment ça s'appelle, Sergio Leone, tu te souviens, les films un peu Spaghetti West, comme ça.
Mais il y a un hommage dedans, à un moment, à Ennio Morricone.
Il y a un hommage à toute cette atmosphère du film, tu vois.
Et c'est quoi, ce sont des films qui t'avaient marqué, jeune, gamin?
Quand j'étais petit, quoi, et on gardait plein de westerns, tu vois, plein. Et la plupart, c'était des westerns italiens. Et qui s'appelle Spaghetti Western, avec la musique des Morricone ou des musiciens, des auteurs qui ont joué et qui ont composé un peu dans la même façon, quoi, tu vois.
Quand tu étais petit, c'était la musique qui t'avait marqué, c'était le film, c'était le rythme?
C'était tout. Bien sûr, la musique, parce que je suis beaucoup attentif à la musique. Beaucoup...
Tu l'as toujours été?
Bien sûr, oui.
On va peut-être commencer à parler d'une de tes musiques.
Ouais.
J'en ai choisi une, c'est El Regreso.
El Regreso, ouais.
Écrit en espagnol par un Italien qui parle français.
Qui parle très mal français, en tout cas. Non, parce que j'ai dans les concepts de disque, j'avais pensé de mettre tous les titres en mexicain, en fait, en espagnol, tu vois. Et El Regreso, c'est la deuxième morceau, je pense. La troisième. En fait... qui part du retour de Don Diego après ses études à l'Espagne, comme toutes les filles des familles importantes, tu vois. Ils avaient les droits d'aller étudier à l'Espagne et après de retourner à la maison. Alors ça raconte un peu la fête que toute la communauté où il habitait, la famille et tout ça, ils ont fait pour le retour de Don Diego.
Il est très frais, il est très rythmé.
Ouais.
Ben, c'est celui qui est utilisé par ta maison de disques pour mettre en avant ton travail.
Ouais, c'est, bon, ça c'est moi que j'ai décidé de faire ça, bien sûr, parce qu'on me demande. Et moi je pensais, oui, c'était un morceau un peu allègre, qui pouvait être attachant au...
Bon, bon, on va peut-être écouter. Hein.
Tu veux écouter?
Bah, allons-y.
Ok.
C'est vraiment très rythmé. Hein.
Ouais.
C'est très chouette.
Ouais.
Et tu peux nous en parler un petit peu plus de ce morceau?
Ben, en fait, oui, je me suis inspiré beaucoup à la sonorité mexicaine, avec la trompette qui, comme des mariachi, tu vois, qui c'est les groupes typiquement mexicains, ils prennent la mélodie, c'est toujours une mélodie avec des notes brillantes, quoi, tu vois. Et dans la pause de la mélodie, il y a la guitare qui fait cette sonorité.
Le Mexicain qui est assis dans un coin avec son sombrero et la guitare à la main.
Non, c'est pas ça. C'est plutôt la guitare Spaghetti Western, la guitare D'accord. électrique, tu vois. Que c'est une guitare des années 60, si tu veux. Cette sonorité que moi j'adore. J'ai utilisé cette sonorité-là.
Ah, il me semble que tu as dit un jour que tu faisais de la guitare avec ton sax.
Ouais, mais là c'est un autre truc en fait, parce que moi je suis beaucoup passionné de la guitare, parce que je suis né dans une période où le rock c'était la musique plus importante.
Et
moi,
on a fait pas mal aussi du rock.
Qui?
T'en as joué toi?
Oui, j'ai joué beaucoup, beaucoup. Mais en fait, quand j'ai joué du rock, j'ai joué plutôt le piano, quoi, piano électrique.
Ah non? Oui.
Ouais. J'ai jamais raconté ça?
Non, c'est bien, j'apprends encore
ouais,
quelque chose.
Ouais, ouais. J'ai joué la musique de Park Paul, Eagles, les Zeppelin, tu vois, et j'ai joué du piano.
Ouais, ouais. Mais c'est, tu peux me dire l'instrument que tu ne sais pas jouer?
Ah, il y a plein, tous les autres.
Mais non, déjà, tu as la guitare, tu as la batterie, tu as le sax ténor, le sax alto,
les saxos,
la clarinette.
Ouais.
Maintenant, tu as des nouveaux instruments parce qu'on l'entend dans ton disque.
Ouais. En fait, tous les disques de Tinissima, il y a un instrument ethnique.
Oui, j'ai entendu ça, ouais. C'est beau. C'est...
Et ça, cet instrument-là, je l'ai acheté à New York avec l'idée de faire zéro à l'époque, 2000.
C'est pas cet instrument que tu as apporté une fois à un Sunday Jazz Loft, là, une petite boule blanche?
Non.
C'est pas ça?
Non. Non, à Sunday Jazz Loft, je n'ai jamais porté ça. C'est un flûte. Un indien américain, c'est-à-dire un flûte Cherokee, je pense, non? Et c'est un double flûte qui a un bourdon, ça veut dire une note ténue, et les autres tu les peux jouer.
D'accord.
Ok. Et là, je me souviens parce que c'était à New York, en 2011, j'avais une petite tournée à New York. À l'époque, on ne se connaît pas encore. On ne se connaissait pas encore.
A priori, si ça fait plus, on a quelques autres jours que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît.
10 ans, ouais. Bon.
Mais on se suivait moins souvent.
Ok.
Maintenant, on a un GPS. On sait où est l'autre.
Ouais, t'as raison, t'as raison. Et là, j'avais déjà en tête de faire Zorro, comme je t'ai dit. Après, il n'est pas venu tout de suite. Et je suis rentré dans un magasin d'instruments ethniques, surtout indiens, et j'ai acheté ça. Avec l'idée de parler de...
L'utiliser 10 ans plus tard.
Exactement.
Et c'est quoi le dernier instrument que tu vas utiliser dans 10 ans?
Ah là, je ne sais pas encore.
Tu ne l'as pas encore acheté?
Je ne l'ai pas encore acheté.
Bon, bah, revenons un peu sur Zorro.
Ouais.
Moi, je me posais des questions parce que j'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup de musique.
Ouais.
Et je me posais la question, comment tu fais pour inventer une musique, raconter ses personnages, parce que parler de Zorro, parler de son cheval, Sergent Garcia, à chaque fois c'est vraiment un personnage, et tout au long de ce morceau, on le suit le personnage, on l'imagine, on voit ce cheval qui est fouleux, qui se met à courir, Sergent Garcia. Voilà, j'aimerais bien que tu me parles un peu de chacun de ces personnages, comment tu les as imaginés musicalement.
Alors, comme j'ai fait, je ne sais pas, parce que c'est du fantasy que j'ai dans ma tête qui m'arrive, quoi. Des suggestions un peu cinématographiques, un peu bandes dessinées, parce que moi j'ai lu beaucoup de bandes dessinées à l'époque. Maintenant aussi, mais ouais, parce qu'il y en a des bien, quoi. Mais beaucoup moins qu'avant.
Tu vois? Il y en a une très belle sur Woody Guthrie.
Ah ouais?
Je te l'avais offert.
Ah oui, t'as raison. j'avais oublié. T'as raison. Ouais. Et là, comme j'ai vu, je ne sais pas moi, c'est comme des fantaisies que j'ai dans la tête. Quoi. Et j'utilise les sons, les sounds du groupe et l'idée du musical, quoi, pour raconter ça.
Et par exemple, quand tu arrives avec une musique, tout est projeté dans ta tête de ce que tu as envie de faire avec ton équipe.
Ouais.
Et le retour de l'équipe, ça se passe comment quand vous êtes tous les quatre ensemble?
Alors, mais déjà, on se connaît très bien parce que ça fait 12 ans qu'on joue.
Combien? 12?
12 ans, ouais. On a commencé en 2007. Ça fait 14 peut-être cette année. Oui. C'était à la fin de 2007. Waouh, 14 ans. Et là, normalement, j'explique l'atmosphère. mais pas trop, parce qu'il comprend tout de suite, on se connaît très bien, et tous les connaît, ils sont des super musiciens. Et rien, j'ai pour les partitions, j'ai pour les parts pour les deux, pour la trompette et sax, la part pour la basse, quatre fois la part de la batterie, sinon je ne la crée même pas, parce que j'explique, et je dis, non, il est super, il comprend tout de suite la...
Est-ce qu'il y a un moment, il y a un des musiciens qui va tirer l'histoire vers lui et va vous embarquer, va vous emmener ailleurs ou pas du tout?
Ça arrive. Alors, disons que la création, je sais pas comment dire. Normalement, j'ai bien clair dans la tête comme il faut qu'il joue cette morceau et j'explique ça. Comme je t'ai dit, il comprend tout de suite. Il y a quelquefois des bonnes idées. Des bonnes suggestions qui viennent d'au Giovanni, au Danilo, au Zeno. Ils me donnent des conseils. Et quand c'est bien, j'ai la fais tout de suite. Tu vois? Ah,
te connaissant, j'imagine que il y a une forme de liberté, de générosité. Tu n'es pas là comme un chef carré, dur.
Oui, c'est ça. Ouais,
c'est
ouais,
c'est pas le Francesco que je connais, dans tous les cas.
Non, parce que quand il me donne des super idées, je dis merci. Ça, tu as raison, ça marche mieux comme ça. Mais normalement, j'ai très clair comment faire déjà.
J'ai très clair.
Mais c'est arrivé qu'il y ait des idées, que j'ai changé un tout petit peu, parce qu'il y avait des bonnes idées qui arrivaient dans les autres. Quoi.
Et quand tu vas enregistrer, ouais. Vous avez beaucoup répété avant? Vous avez peu répété?
Parce qu'après, on ne répète jamais. Nous, on répète une journée entière. Non, on fait deux répètes. Alors, on se trouve la première fois pour regarder les matériels que je prends.
Et donc, ils connaissent rien?
Rien. Moi, j'envoie des partitions avec l'ordinateur, tu vois. Mais en fait, on se trouve, pour Zorro, par exemple, on s'est trouvé à la fin de l'année 2019, tu vois. En décembre 2019, on a fait la répète. Deux mois après, on a enregistré, et les jours avant de trouver un studio, on a répété toute la journée. Matin, et après-midi et soir, toute la journée, ok?
Et le lendemain, vous rentrez en...
Le lendemain, on rentre en studio. S'il y a des... Normalement, tout est déjà fixé. Et après, s'il y a quelques problèmes pendant les concerts...
Non, pendant l'enregistrement,
tu vois. Ça va aller parce qu'on a déjà répété bien. S'il y a... On fait des lives et s'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que les lives, après, il va être un peu différent du disque. Alors là, pendant les balances, moi, j'ai dit, oh, essayons ça. Ou essayons comme ça. Et sinon, on répète jamais plus. Et après, en concert 2, on mémorise tout.
D'accord, donc ça veut dire que vous mettez une journée de studio pour sortir les 11 ou je sais pas.
On met deux journées. Une journée pour faire le disque, parce qu'on est très vite. Normalement, c'est le premier choix, le premier take ou la deuxième.
Ah, vous faites une ou deux prises, c'est tout.
Oui, une prise, exactement. Oui, normalement, c'est la première prise. Et quelle fois la deuxième?
Et comment ça se fait? Ça va si vite? C'est parce que vous connaissez bien?
On se connaît très bien, ils sont des super musiciens. Et la répète du jour avant, c'est un vrai répète, quoi. Ça fait 6-7 tours de répète, quoi. Alors là, on est prêt, quoi.
Ouais. Et c'est le moment où vous répétez le plus, puisque après ça part en tournée.
Après ça part la tournée. Et si on répète un peu, on répète pendant la balance. Mais juste un tout petit peu, tu vois? Je ne stresse jamais mes musiciens.
Donc ça veut dire qu'après, ils ont quoi? Ils ont toute une liberté
Ouais, bon, la structure est fixée, mais pendant l'improvisation, ils sont libres d'être créatifs.
C'est fabuleux de pouvoir travailler avec quelqu'un comme toi.
Ouais. J'y pense, oui.
Bon, on va essayer de regarder maintenant, de donner à écouter un deuxième morceau, qui cette fois, c'est Lolita.
Oh, Lolita, ok.
Alors pourquoi Lolita?
Alors, je t'explique une autre. Alors, je vais en arrière un peu. Alors, la suite de Zorro, ça commence avec quatre morceaux qui parlent que de Zorro. Zorro, El Regreso et Algo Mal. Ok? Et il y a un petit parenthèse qui s'appelle Tierra India, et c'est dédié à...
Qui est la deuxième.
Qui c'est la deuxième. Mais sinon, moitié suite, c'est par des euros à travers Zorro. L'autre part, à part le dernier morceau qui s'appelle El Triunfo de Zorro, elle part des Zorro à travers des personnages positifs. Positifs comme Bernardo, positifs comme les sergents Garcia.
Il n'est pas complètement positif, lui, quand même.
Qui
Sergent Garcia, il est rigolo, mais il n'est pas positif.
Non, mais il est positif dans le sens qu'il n'est pas une mauvaise personne, en fait.
D'accord.
Parce qu'il a, il est quand même bien. Il est obligé, comme militaire, d'être comme ça, quoi.
D'accord, d'accord, tout à fait.
Mais il aime Don Diego et il partage un tout petit peu par Zorro. Mm. Non? Lolita, c'est la femme de l'histoire, non? C'est la, comment dire, c'est la fille qui aime Zorro, qui est séduite par Zorro, mais il est cortégé par Don Diego, que c'est la même personne. Alors cette
double personnalité,
il m'a beaucoup impressionné. Et inspiré pour écrire un morceau.
Parce que là, on arrive sur un morceau très doux, très calme.
Exact. Parce que moi, j'ai oublié de te dire ça. Quand j'imagine la suite, j'imagine déjà les dynamiques à travers les chapitres. Les chapitres de la suite, ils sont les titres du morceau. Alors là, j'ai créé déjà une balance. L'intro.
Ah, même quand tu écris, oui. C'est musical en fait avec toi.
Ouais. Mais déjà, avant d'écrire la musique, j'écris les titres. J'imagine la grille du travail entier, ok? Et là, je savais déjà qu'avant de faire Tornado, que c'est un morceau très agressif, j'avais besoin de décaler avec un morceau de 12. Et là, c'est le moment d'introduire Lolita.
Eh bien, on va l'écouter alors.
On va écouter.
Effectivement, c'est très très doux.
Ouais.
Ah, c'est très chouette.
Ouais.
Bon, maintenant, j'ai envie de rentrer encore plus dans cette histoire. Tu m'avais demandé de réfléchir il y a quelque temps à ton disque, à faire la couverture du disque. Ça ne s'est pas fait pour des raisons X et Y, et peu importe, ce n'est pas très important.
Ouais.
Et en découvrant un petit garçon qui a une bouille extraordinaire, j'ai eu envie de faire un clip vidéo sur Zorro. Est-ce que ce que tu as vécu te projette dans un univers qui t'appartient? T'es sorti complètement? Ça t'a dérangé? Ça t'intéresse? Qu'est-ce qui se passe au travers de cette aventure?
Alors, il faut dire que, avant tout, que moi, j'avais jamais tourné en vidéo musicale. J'avais fait des vidéos avec des morceaux à moi, mais toujours utilisant des images des autres. Là, c'était la première fois où j'ai récité sur un morceau à moi. Parce que j'avais récité, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des théâtres, pas comme toi, très peu, mais bon, je l'avais fait. Mais réciter avant une caméra, sérieusement, parce que tu le fais, Maya, peut-être rigolante, avec des copains, mais là, c'était vraiment bien, quoi, de faire ça. J'avais un peu peur au début. En fait, les premières...
Ça y est, enfin, je t'ai fait peur.
Ouais.
Ben non, 10 ans, j'y suis arrivé.
Non. Écoute, parce que en fait, c'était, tu te souviens, les premières prises qu'on a fait. Mais moi, j'essayais d'être acteur, mais je ne suis pas acteur. Après, je me dis, il faut que tu relaxes et tu es naturel.
Quand tu as vu ce décor comme ça, un petit peu cassé de partout, c'était quoi? Est-ce que c'était collé à un imaginaire qui t'appartient? C'était tellement différent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
Non, c'est différent la façon de faire de l'art, si tu veux. Parce que moi, j'ai fait de la musique. Là, ça va être de la musique avec des vidéos. Mais je suis à l'aise dans une ambiance créative, quoi. Parce que quand on va en studio, c'est un peu pareil. On n'utilise que des sons, pas des images. Mais quand même, on crée une histoire. Et là, c'était pareil. C'était la première fois pour moi, mais j'étais à l'aise parce que c'était quand même une façon de raconter une histoire créative, quoi.
Mais justement, comme moi je sais qu'avec toi c'est toujours facile, je te raconte n'importe quoi, tu me dis oui. Donc, mais là, c'est la première fois que je me permets, moi, d'aller sur ton terrain. Et d'aller bousculer des choses avec ma créativité, celle d'Elia, puisqu'on est co-réalisateur, Elia et moi. Elia, c'est mon fils. Astrid s'est occupée de toute la direction d'acteurs, donc on s'est vraiment fait plaisir. Ouais. Un petit garçon qui joue le rôle d'un Zorro avec un masque et qui s'habille, qui joue Zorro déguisé, toi qui joues Zorro avec ton sax, ce rapport, ce parallèle, puis tous ces personnages avec des masques qui sont peints sur les yeux, comme ça...
Ouais.
On est arrivé avec ça, t'as jamais dit non, t'as jamais dit oui, tu l'as fait.
Ouais.
Et il n'y a jamais de barrière, c'est-à-dire que c'est simple en fait de travailler avec toi.
Merci,
frère. Non, mais c'est vrai, c'est.
Je suis content que tu aies dit ça.
Ce que tu dis par rapport à tes musiciens, moi je l'ai ressenti là, c'est-à-dire que je te propose quelque chose, on y va, on le fait, et puis après on passe à l'histoire d'après, on verra bien ce qui se passe, et c'est vrai que c'est agréable.
Ouais. Mais il faut dire surtout qu'on s'est amusé beaucoup.
Oui, on s'est beaucoup amusé.
Parce qu'avec toi, Elia, mais Astrid aussi, tous les autres, on a rigolé tout le temps.
Oui, on a bien rigolé, ça c'est
sûr. On a bien rigolé, et ça c'est parfait pour travailler bien, quoi. Tu vois?
Ah ben ça, je suis sûr qu'il faut faire les choses sérieusement, mais il ne faut pas se prendre au sérieux.
Oui, sérieusement, mais avec une ambiance relax, quoi, positif. Et j'ai trouvé ça très chouette. Parce que je me suis senti à l'aise.
Chaque prise qu'on faisait, ça se passait bien. Et pourtant, je peux te dire qu'on a eu des câbles qu'on cassait, on a eu une lumière qui a cassé.
Comme toujours, il y a
toujours des problèmes.
Mais si on a fait froid, quelquefois.
Non, je me souviens pas.
Oui, parce que c'était en chemise, quoi. Chemise noire des hommes, oui. J'avais froid.
Pardon, en chemise noire de Don Diego.
De Don Diego, pardon.
Bon, ben, je pense que maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire.
Ouais.
C'est écouter El Triunfo des Oros.
El Triunfo des Oros. On y va.
Heureusement qu'on a écouté la musique, hein, ça nous rappelle quand même de bons souvenirs.
Ouais.
Bien.
Parce qu'on l'a écouté plein de fois, dis-moi.
Oui, ça, on l'a écouté, hein, découpé, saucissonné, tranché en petites rondelles.
On la connaît bien.
Toi, tu la connais mieux que moi, d'ailleurs.
Ouais.
Alors, pour retrouver ton disque, on fait comment ?
Mon disque, il faut aller à la FNAC, mais maintenant, c'est mieux qu'on le commande online, sur Internet.
Ah d'accord, par la FNAC.
Ouais,
non, parce que je vois que tu en envoies des signés dans le monde entier.
Non, parce que alors, il y a plein de mecs qui me demandent l'autographe.
D'accord.
Et alors moi, pendant les confinements, j'avais rien à faire, tu vois, que jouer un peu à la maison, étudier, rester avec ma copine, mais on ne peut pas sortir. Alors j'ai dit, ok, écrivez-moi l'adresse et envoyez-moi 20 euros ou 16 euros à l'Italie, 20 euros à l'étranger. Et là, j'ai envoyé les disques signés avec un autographe, un dédicace.
Oui, parce que j'en ai vu, je me suis dit, tu n'as jamais été aussi présent sur Facebook de ta vie.
Parce que je n'ai rien à faire, toi. J'ai vendu 200 disques sur la montre par Internet, quoi.
Et tu en as vendu plus de 1000, je crois.
1000 en France. Et maintenant, il a demandé avant Noël 250 encore.
Bon, ben c'est une belle aventure.
C'est une belle aventure parce que maintenant...
Pour un disque qu'on ne joue pas.
Ouais. Mais aussi qu'on ne vend pas des disques, parce que normalement, tu écoutes de la musique numérique, quoi. Malheureusement, la musique numérique, ils ne donnent pas des sous à les artistes. Et ça, c'est très, très triste.
Bah, alors, faites des efforts, donnez des sous aux artistes.
Il faut faire.
Bah, merci beaucoup, Francesco.
Merci à toi, Fred.
Bon, on va continuer, on va se réinventer des nouvelles histoires.
J'espère.
Alors, à bientôt.
Ciao.
Ciao. Thank you.